Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous. Comment conserve-t-on le patrimoine historique et culturel en Europe? Si à Bruxelles, on insiste bien sur l'atout majeur que consiste ce patrimoine pour l'Union européenne, les politiques mises en place sont souvent nationales et disparates. Ainsi, en Italie, célèbre dans le monde pour ses ruines ou ses églises, mais beaucoup moins pour ses forts militaires romains. À la fin du 19e siècle, un réseau de 15 places fortifiées était construit tout autour de la capitale du nouveau royaume d'Italie, gouverné alors par la Maison de Savoie. Aujourd'hui, une association réhabilite ce patrimoine encore peu connu des Romains et qui pourrait devenir un modèle de gestion culturelle de la ville. C'est le reportage d'Olivier Bonnel.
Simone Ferretti est un passionné. Cet architecte et paysagiste a fondé en 2011 l'association Progetto Forti pour valoriser les fortifications militaires du camp retranché qui encercle Rome. Ce matin, il nous accompagne à la lisière de la Villa Ada, le plus grand parc de la ville, où se trouve le fort Monte Antene, construit en 1882, encore caché par les broussailles.
On se trouve sur le chemin d'accès, au sein de ce grand coin de verdure qu'est la Villa Ada, qui était à l'époque la campagne de Rome. C'est là qu'a été construit ce fort. C'est un lieu très agréable. Vous le voyez, on entend chanter les oiseaux. À l'époque, c'était un terrain complètement aride et plat. Là, on voit le fort avec sa porte d'acier, un pont-levis et des meurtrières à lunettes, d'où sortait la fumée des fusils.
Aurelia, Trionfale, Portuense, Boccea ou Bravetta, tous les forts du camp sont associés au nom des quartiers de la ville éternelle. Comme les 14 autres forts construits en arc de cercle autour de Rome, Monte Antene était un poste de défense contre les invasions de l'armée française. Simone Ferretti poursuit la visite. Sur la partie droite du fort Antene, des fenêtres et une cheminée, loin d'avoir un aspect militaire, comme si les lieux y avaient été habités.
Dans le passé, de nombreux Romains ont trouvé dans les forts un point de chute pour se loger à moindre coût. Par exemple, au fort Monte Mario, beaucoup d'Italiens rapatriés des ex-colonies s'y sont installés.
C'est pour sauver ce patrimoine que Progetto Forti a été créé. L'association de Simone organise en effet des activités culturelles dans les forts qui ont été restaurés, comme des concerts ou récemment un atelier d'art. L'idée est non seulement de redécouvrir un patrimoine, mais aussi et surtout de créer du lien social. Simone Ferretti.
Plus que notre passion personnelle pour ces lieux, ce qui nous intéresse, c'est de penser l'avenir de ces forts. Tout reste à faire. Aujourd'hui, on le voit, ce fort est comme une grande épave à l'abandon. Mais on pourrait y créer une vie sociale. Tout l'enjeu est de réhabiliter ces sites à Rome, où la gestion du patrimoine est très administrative et où l'on ne regarde que la dimension historique. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'en partant de la valeur historique de ces fortifications, naissent dans les 20 prochaines années un véritable projet où les associations, les acteurs privés et publics puissent se mettre ensemble pour proposer des activités culturelles.
Progetto Forti veut faire bouger les lignes dans une ville de Rome où la bureaucratie est toujours forte et où les politiques publiques concernant les offres culturelles sont encore plutôt frileuses comparées aux autres capitales européennes. L'association y arrive peu à peu. Ainsi, un projet de résidence artistique devrait bientôt voir le jour au fort Boccea, à l'ouest de Rome. Le fort Bravetta, lui, est déjà ouvert pour des tournages cinématographiques. Cette remise en valeur des forts militaires de la capitale a séduit Paolo Berdini, l'un des urbanistes les plus célèbres en Italie, auteur de plusieurs ouvrages sur l'expansion anarchique de Rome.
La richesse patrimoniale de ces forts du 19e siècle était extraordinaire pour la ville de Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que la population travaille depuis longtemps près de ces sites. L'administration publique doit donc travailler avec les citoyens, de sorte que Rome s'engage à la fois sur le développement durable et la réappropriation d'un patrimoine historique.
La réappropriation du camp retranché se fait petit à petit par les Romains. Une démarche de plus en plus populaire si l'on en juge les journées portes ouvertes du mois de mai dans la capitale qui ont attiré des centaines de curieux dans ces forts. En ce qui concerne le fort Monte Antene, Simone Ferretti rêve, une fois qu'il sera restauré, d'en faire un lieu de bien-être pour le corps et l'âme, comme il l'explique, où l'on pourrait suivre par exemple des cours de yoga, comme cela est déjà le cas à quelques centaines de mètres d'ici, dans la Villa Ada.
Ah, look at that, Jeffrey. Another fine day shining down on God's sweet Britain, land of crumble and lemon curd and opportunity. God, I love it.
Au Royaume-Uni, la protection du patrimoine bénéficie d'une organisation ancienne et structurée. Le parrainage de la famille royale et l'investissement des familles à la généalogie ancienne est un atout pour les vieilles pierres, mais ce n'est pas tout. Ces sites historiques ont su se rendre attractifs à la population, aux familles notamment, car ils n'ont pas peur d'être vus comme des attractions. Marie Billon nous en dit plus.
L'entrée et la sortie de tout château médiéval ou manoir victorien se fait à travers un magasin de souvenirs. On y trouve les classiques cartes postales, mais aussi des peluches, des outils de jardinage, des tasses à thé ou même de la confiture, du vin ou encore des bougies parfumées. Parfois, ces souvenirs ont un lien avec l'endroit, comme les peluches de Jock, le chat de Winston Churchill, dont les descendants félins peuvent encore être vus dans les jardins de Chartwell, la maison de campagne de l'ex-premier ministre. Mais parfois, ça n'a rien à voir. Et bien sûr, il y a toujours ou presque un café, voire un café et un restaurant sur les lieux. C'est un modèle qu'assument complètement les organisations de protection du patrimoine, comme National Trust ou English Heritage. Elles ont besoin de générer des revenus pour entretenir les demeures. Le modèle économique fait en effet penser à l'éthique protestante américaine, selon laquelle l'argent n'est pas honteux tant qu'il est utilisé à bon escient. Il est d'ailleurs partagé même par les petites églises anglicanes, qui elles aussi ont besoin d'argent pour rester debout. Un exemple est St. Michael's and All Angels Church, dans la région du Buckinghamshire, à l'est de Londres. C'est dans cette petite paroisse que sont enterrés le premier ministre victorien Benjamin Disraeli et son épouse. Ici, pas de froufrou, un écriteau est affiché au-dessus du fond baptismal. On y dit combien coûte l'entretien de cette église du XIIe siècle chaque semaine. Et on ne compte pas que sur les petites contributions des visiteurs. Il y a aussi des gros sous. Les films Johnny English ou encore Victoria et Abdul ont tourné certaines scènes ici. Et pour les paroisses qui n'attirent pas l'œil d'Hollywood, il y a une autre solution pour ramener des fonds, le camping ou champing dans une vingtaine d'églises du pays pour environ 70 euros par adulte et 35 par enfant par nuit. On peut dormir entre les bancs, jouer avec l'orgue ou encore s'amuser à cache-cache dans le confessionnal.
La sauvegarde du patrimoine historique n'a pas vraiment la cote dans la Hongrie actuelle. Encore plus quand il s'agit d'un bâtiment datant de l'ère communiste, période que déteste Viktor Orban, qui a par ailleurs supprimé l'Office des monuments historiques. C'est donc grâce à une initiative individuelle, celle d'une passionnée d'architecture, qu'une ancienne gare routière des années 60 a été transformée en un café et salle d'exposition. Le café Transit est désormais classé au patrimoine national. Reportage Florence Labruyère.
Dans un quartier résidentiel de Budapest, à quelques mètres d'une grande place arborée, une petite maison cubique tout en verre abrite un café pas comme les autres.
On est ici au Café Transit. Avant, c'était une gare routière qui desservait la province. Le bâtiment date de 1964.
Orshoya Egri, propriétaire du Café Transit.
Pour moi, l'édifice ressemble à une œuvre du peintre hongrois Viktor Vasarely, avec sa forme cubique rigolote et ses lignes géométriques. L'architecte qui l'a conçu voulait que les voyageurs attendent dans un endroit très lumineux. En hiver, quand il fait gris et sombre dehors, il y a beaucoup de lumière ici.
La gare routière fonctionne de 1964 jusqu'à 2001, puis elle ferme et commence à se délabrer. Orshoya Egri, qui habite le quartier, veut alors sauver le lieu. Elle décide de le louer à la municipalité et d'y ouvrir un café artistique. Avant de rénover l'endroit, elle y organise une première exposition photo qui retrace la vie de la gare dans les années 60.
Des centaines de visiteurs sont venus voir l'expo avec leurs enfants, leurs petits-enfants, pour leur montrer l'endroit où ils étaient venus si souvent. souvent. Ce bâtiment ne fait pas seulement partie de notre patrimoine architectural, il a abrité plein d'histoires personnelles. C'est pour ça que j'ai déposé un dossier pour le faire classer. Depuis 2004, il est inscrit au patrimoine national.
Anna, une habitante du quartier, est venue déjeuner sur la terrasse du café. Elle est située sous une arcade où stationnaient autrefois les autocars.
On voit encore des vestiges de l'ancienne gare, l'arcade, le bâtiment principal. Bien sûr, tout cela a été rénové. C'est une belle terrasse. Elle est grande et à l'ombre. Quand il fait chaud en été, c'est vraiment très agréable.
L'ancienne gare est classée. Mais pour combien de temps? Le gouvernement nationaliste de Viktor Orban a supprimé l'Office des monuments historiques. L'État a confié la protection du patrimoine à plusieurs ministères. Mais cela ne résout pas le problème, comme l'explique l'architecte Anna Pertzel, qui a fondé une association de sauvegarde du patrimoine.
Certes, les ministères ont repris cette mission, mais peu après, l'État a licencié les fonctionnaires qui s'occupaient des monuments historiques. À l'heure actuelle, à part quelques juristes, il n'y a plus aucun expert dans les ministères. La protection du patrimoine est au niveau zéro.
Pour l'instant, le café Transit n'est pas menacé, mais dans un pays où règne une corruption endémique, si un investisseur immobilier voulait s'emparer du site, il pourrait fort bien faire déclasser le lieu. Orshoya Egri ne se fait guère d'illusions.
Je ne peux pas fanfaronner et dire que j'ai sauvé cet endroit. Qui sait ce que demain nous apportera? Les choses changent très vite ici en Hongrie.
L'UNESCO reproche régulièrement au gouvernement Orban de négliger la sauvegarde des monuments historiques. L'organisation internationale pourrait retirer Budapest de la liste de son patrimoine mondial.
C'est une exposition exceptionnelle qui se tient encore cet été à Skopje, au musée archéologique de la Macédoine du Nord. Pour la première fois, sont présentés des trésors découverts dans une nécropole datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, à proximité du lac d'Auride, avec entre autres de magnifiques masques mortuaires, Laurent Gélin.
Des vases et des poteries, de l'ambre, des casques, des lances et des bijoux finement ciselés et de superbes masques mortuaires en or. Il aura fallu 100 ans pour que les trésors de la nécropole de Trebenište soient enfin réunis. Les premières tombes avaient été découvertes en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale par des soldats bulgares qui rénovaient une route. Depuis, de nombreux archéologues ont tenté de percer le mystère de ce cimetière antique installé au 6e siècle avant Jésus-Christ sur les bords du lac d'Auride. Éparpillés à Sofia, Belgrade et Skopje, les trésors de Trebenište sont pour la première fois réunis. Goran Sanef est le directeur du musée archéologique de la Macédoine du Nord.
L'exposition sur Trebenište comprend près de 400 artefacts d'or, d'argent, de bronze, de verre, d'ambre, de céramique. Les pièces les plus connues, pas seulement des milieux scientifiques, mais aussi du grand public, ce sont les masques d'or. Ces derniers jouaient un rôle très important dans les rituels funéraires de l'aristocratie de Trebenište. Ces artefacts ont été produits dans des régions d'Europe très variées. Certains viennent du Péloponnèse, de Corinthe, d'Athènes, d'autres d'Asie mineure et des rivages de la mer Baltique.
Après Skopje, l'exposition sera présentée à Sofia et à Belgrade et devrait même arriver en France au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. L'occasion d'admirer le talent des artisans de l'Antiquité, 3 siècles avant Alexandre le Grand, et de tenter d'imaginer la vie fastueuse des nobles de Trebenište qui ne voulaient affronter la mort qu'avec un masque en or.
Cartographier une ville non par ses rues mais par ses odeurs, c'est l'initiative originale d'un célèbre parfumeur turc. Chaque quartier d'Istanbul a ses odeurs, des odeurs qui disparaissent au profit d'autres symboles, des mutations profondes que subit la mégapole à Nandlauer.
Que sent une mégapole comme Istanbul, qui s'étale d'est en ouest sur près de 300 km et où vivent au bas mot 15 millions d'habitants? Vedat Ozan, célèbre parfumeur, écrivain, professeur d'université, se pose sans cesse la question quand il arpente et hume les rues de sa ville natale. Bien sûr, il n'a pas une réponse, mais un bouquet de réponses qui varient dans l'espace et de plus en plus dans le temps. À ceux qui sollicitent son flair, l'expert répond en dessinant une carte mentale d'Istanbul, une carte de ses odeurs. Prenez Topane, par exemple, le quartier de la rive européenne à deux pas du pont de Galata. Il y a une vingtaine d'années, quand il s'y promenait, Vedat Ozan y décelait encore l'odeur de fer forgé émanant des petits ateliers où l'on travaillait ce métal. Aujourd'hui, pour un nez avisé, Topane sent la friture et le café moulu. C'est l'odeur de la gentrification qui transforme le quartier. Un peu plus loin sur le Bosphore, les rues de Beşiktaş exhalent les senteurs des tilleuls qui survivent, on ne sait trop comment, dans ce quartier central pris d'assaut par les promoteurs. Encore plus haut, le long du détroit, sur une rive et sur l'autre, Kandili, Beykoz, Bebek ou Emirgan charrient des effluves marines, une rareté dans une ville qui vit pourtant entre deux mers. Vedat Ozan regrette d'ailleurs que le quartier de son enfance, Sarıyer, lui aussi voisin du Bosphore, perde un à un ses pêcheurs et donc ses odeurs de poissons. Ailleurs, le temps et l'urbanisation n'ont pas encore fait œuvre de grands désodorisants. Le marché aux épices sent toujours le poivre, le safran, la cannelle, la menthe ou la coriandre. Le quartier historique de Fatih sent toujours, par endroits, l'eau de Cologne citronnée, que Vedat Ozan considère comme le parfum national turc. D'autres, comme Beyoğlu, adaptent leur senteur au nouveau profil des touristes. Le bois de oud, des parfums bon marché et les arômes de narguilé se répandent peu à peu dans le quartier de la place Taksim, qui plaît tant ces dernières années aux touristes des pays du Golfe. D'autres arrondissements, enfin, n'ont pas encore d'odeur caractéristique, aucune, du moins, qui chatouillerait les narines du parfumeur Vedat Ozan. Ils sentent, comme tout le reste d'Istanbul, les gaz d'échappement d'une des mégapoles les plus embouteillées du monde. This is the kind of record I have always wanted to make available.
C'est d'une voix quelque peu éraillée que je vous salue, Vincent Teval, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous faites découvrir aujourd'hui le premier album de Young Stutter, et manifestement, vous avez été emporté.
Ah oui, il s'agit d'un jeune Allemand, Fabian Hallstötter, qui publie son premier album solo sous le nom de Young Stutter, mais n'en est pour autant pas à ses débuts. Et on l'a d'ailleurs déjà croisé à deux reprises dans Accent d'Europe, avec le groupe César, un trio qui a sorti deux albums éclectiques dans un registre plutôt pop à consonance synthétique. En solitaire, Young Stutter a choisi de considérablement épurer sa musique et livre avec Love Is un album somptueux, marqué par une écriture et des arrangements de toute beauté, écrin de choix pour une voix remarquable qui évoque notamment celle du regretté Scott Walker et qu'on a du mal à attribuer à un jeune homme de 28 ans, surtout quand il chante The Wound Wrapped in Song, la plaie enveloppée dans une chanson.
Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se quitte sur la voix profonde de Young Stutter à la réalisation. Il y avait Françoise Grelot qui a tout fait pour essayer de corriger ma voix un peu perdue avec le ventilateur. À la semaine prochaine.